L'évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 6, la deuxième partie du chapitre, nous donne la clé de lecture pour vieillir comme du bon vin et non pas comme du vinaigre. La différence entre quelqu'un qui vieillit comme du bon vin ou quelqu'un qui vieillit comme du vinaigre se trouve dans la question du pardon. Et c'est de cela que je vais parler. Accrochez-vous parce que ça va être long et dense. Mais j'ai plusieurs trésors à vous livrer et je ne voudrais pas que vous passiez à côté. Il y a des vies gâchées à cause d'un pardon refusé. Et Jésus aujourd'hui dit: vous serez les fils du Très-Haut si vous pardonnez, si vous aimez ceux qui vous font du mal, puisque lui, le Père du Ciel, il est bon avec ceux qui le méritent et avec ceux qui ne le méritent pas. Il fait lever son soleil sur les uns et sur les autres. Donc ça, la promesse, c'est du coup d'être fils du Très-Haut. Et quelle est la prière des fils par excellence? C'est le Notre Père. Très bien. Et dans Notre Père, on dit notamment: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, il y en a qui ont un peu de mal à dire cette phrase. Demandez à Dieu de nous pardonner parce que nous aussi nous pardonnons. C'est indissociable. Je demande d'être pardonné parce que je pardonne à mon tour. Et combien de vies spirituelles plafonnent et ne vont pas plus loin parce qu'à un moment donné, il y a un pardon qui est trop difficile à poser. Et combien de personnes vieillissent comme du vinaigre et pas comme du bon vin parce que il y a tel épisode de leur vie qu'ils n'ont jamais vraiment digéré. Et nombreuses sont les personnes qui ne se confessent pas pour cette raison-là, ou qui, en confession, voient bien qu'il y a un nœud. Je n'arrive pas à pardonner un tel. Comment je pourrais demander à Dieu de me pardonner moi? Je vais vous livrer quatre pistes qui peuvent marquer un avant et un après dans votre vie. D'abord, je voudrais vous faire pressentir la différence entre ressentir et vouloir ressentir. Vous n'êtes pas coupable de ce que vous ressentez, vous êtes coupable de ce que vous voulez ressentir. Il y a des personnes qui vous font du mal. Je vous invite à penser à quelqu'un qui vous a fait du mal, vous voyez, parce qu'il faut que cette homélie devienne concrète. Il ne faut pas que ce soit des concepts abstraits. Prenez un moment pour penser chacun à quelqu'un qui vous fait du mal et vous ressentez une rancune que vous n'avez pas choisie. Elle vient, et vous la subissez cette rancune, vous ne l'avez pas choisie. Pensez à quelqu'un de concret. La première chose, c'est de ne pas culpabiliser de ce que vous ressentez, mais de ne pas vouloir ressentir ça, mais de ne pas culpabiliser de ce que vous ressentez. Il y a trois types d'amour. Le mot amour en français traduit trois mots en grec. En grec, il y a trois mots pour dire amour, et le Nouveau Testament a été écrit en grec, donc les paroles de Jésus ont été écrites en grec. Et donc c'est important de connaître ces trois mots grecs qui ont été traduits par amour. Parce qu'il y a un type d'amour dont on est responsable et d'autres dont on ne l'est pas. Donc en grec, il y a trois mots pour dire amour. Le premier, c'est eros. Le deuxième, c'est philia. Et le troisième, c'est agapé. Eros, c'est l'attirance physique. C'est ce qui a donné le mot érotique. Philia, c'est l'affinité, l'affection. C'est l'amour des émotions, des sentiments. Et agapé, c'est l'amour de l'intelligence, de la volonté, de l'âme. Je veux le bonheur de cette personne. En fait, le seul dont on est vraiment libre, c'est le troisième. L'amour de l'âme, l'amour spirituel. On ne choisit pas le héros, on ne choisit pas la filia, on ne choisit pas par qui on se sent attiré physiquement. Il y a des gens par qui on se sent attiré et d'autres qui, au contraire, nous dégoûtent. Et on n'y peut rien. Par contre, on peut être coupable d'entretenir un mauvais héros. On n'est pas coupable de l'attirance ou du dégoût qu'on ressent, on est coupable d'entretenir une mauvaise attirance. Pareil pour la filia. On n'est pas coupable de trouver... Il y a des gens qu'on trouve très sympathiques, pour qui on ressent tout de suite beaucoup d'affection, et d'autres qui nous énervent. Et ce n'est pas notre faute. On n'a pas choisi ça. On n'a pas la maîtrise complète, ni de notre héros, ni de notre filia. Par contre, on peut être coupable d'entretenir une mauvaise filia, un sentiment de rancune, et de juger quelqu'un, de penser du mal d'un tel. Par contre, on est 100% responsable de notre amour d'agapé. Vouloir le bonheur de chacun, lui souhaiter du bonheur. Et c'est bien de cet amour-là qu'il parle. Si vous prenez l'évangile d'aujourd'hui en grec, je l'ai fait avant la messe, et pour voir exactement le mot qui est employé par Jésus, quand il dit « aimez vos ennemis », le mot qu'il emploie n'est pas le mot « eros » ni le mot « filia », c'est le mot « agapé ». Donc, Dieu ne nous demande pas, heureusement, de vous sentir attiré physiquement par tout le monde. Et il ne vous demande pas non plus de ressentir de l'affection pour tout le monde. Il vous demande de souhaiter du bonheur à tout le monde, de vouloir le bonheur de tout le monde. Ça, vous pouvez. Parce que c'est l'amour de l'intelligence, c'est l'amour de la volonté, c'est l'amour spirituel. Donc, premier pas, faire cette distinction-là et ne pas culpabiliser de ce que nous ressentons. Voilà, vos défauts, les émotions qui vous habitent et que vous n'avez pas choisies, ce n'est pas des péchés. Les péchés, c'est ce que nous voulons. Nous sommes responsables de ce que nous voulons et non pas de ce que nous subissons. Il y a des émotions qui ne sont pas choisies, et d'autres qui le sont. Ça va pour le premier point ? Allez, on passe au deuxième point. Donc, le premier, c'est faire cette distinction-là et ne pas culpabiliser de ce qui ne dépend pas de nous. Par contre, travailler sur ce qui dépend de nous. Du coup, comment travailler sur ce qui dépend de nous ? Notre amour d'agapé, deuxième étape. Je vais vous citer la première lecture dans laquelle David renonce à se venger de son ennemi Saül. Donc Saül était le roi, il voyait bien que David avait de plus en plus de succès et il voyait bien que David allait être le prochain roi et il était jaloux. Et il cherche à le faire mourir. Et à un moment donné, c'était la première lecture d'aujourd'hui, David a l'occasion de se venger parce qu'il surprend son ennemi en train de dormir avec sa lance plantée à côté de lui. C'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 26. Premier livre de Samuel, chapitre 26. Et là, il renonce à lui clouer sa lance, il renonce à se venger. Alors que le même roi David, il a écrit un certain nombre de psaumes. Vous savez, les psaumes qu'on chante entre la première et la deuxième lecture à la messe, 150 cantiques qui ont inspiré toute la prière juive et la prière chrétienne que Jésus lui-même priait. Si vous prenez le livre des psaumes, vous verrez qu'il y a un certain nombre de psaumes très violents, écrits par le même David, celui qui a renoncé à se venger de son ennemi. Les psaumes violents, vous les entendrez pas à la messe, ils n'ont pas été sélectionnés pour les entendre à la messe, évidemment, mais vous pouvez prendre une Bible et les lire. Et donc, pour vous en citer juste un parmi d'autres, le même David qui refuse de se venger de son ennemi, dans le psaume 69, il dit, en parlant de ses ennemis, que leur table soit pour eux un piège, un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent pour ne plus voir. Fais chanceler leurs reins pour toujours. Seigneur, déverse sur eux ta colère et que le feu de ton courroux les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de celui que tu blesses. Ajoute l'iniquité à leur iniquité, qu'il n'ait point part à ta justice, qu'il soit effacé du livre de vie. Vous voyez, c'est le même qui, à la fin, on peut dire, acclamons la parole de Dieu. Bien. C'est dans la Bible, vous vous rendez compte? Donc c'est inspiré par l'Esprit Saint. Et pourquoi l'Esprit Saint a inspiré ces textes-là? Justement dans la bouche de quelqu'un qui, quand il a pu se venger, il a refusé de se venger. Pour nous montrer, comme le modèle de la prière, celui qui exprime à Dieu ce qu'il ressent. Que ce soit juste ou que ce soit pas juste, j'exprime à Dieu ce que je ressens. Et surtout, je demande à Dieu de me rendre justice et je refuse à me rendre justice moi-même. Le principe d'une société sauvage, c'est qu'on se rend justice soi-même. Le principe d'une société civilisée, c'est qu'il y a une instance qui s'occupe de la justice et on demande à cette instance de nous rendre justice et on ne se rend pas justice à soi-même. Et donc, le roi David demande à Dieu de lui rendre justice, demande à Dieu de se venger de ses ennemis et il renonce à le faire lui-même. Il s'en remet à Dieu. Un bel exemple de prière. Évidemment, comme on n'a pas pensé à Jésus qui, sur la croix, va réciter un psaume, justement. Un psaume qui commence en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» alors que Dieu ne l'a jamais abandonné. Pour nous dire que dans la prière, il faut exprimer à Dieu ce qu'on ressent et ne pas il ne faut pas se mentir à soi-même, quoi. Il ne faut pas mentir à Dieu. Dieu ne veut pas des prières hypocrites. Et c'est là que je pense la plupart des chrétiens plafonnent. Ils n'arrivent pas à poser un pardon vrai, un pardon profond. Ils se contentent de passer l'éponge de façon superficielle parce qu'ils n'osent pas se mettre en colère. Et il existe une saine colère qui nous est présentée comme le modèle de la prière dans la Bible. Exprimer à Dieu ce qu'on ressent, même si ce n'est pas tout à fait juste. Pour vous donner un exemple, imaginez un enfant qui a subi de la maltraitance quand il était petit et qui grandit en se disant « Si les adultes me traitent comme ça, c'est parce que je l'ai sans doute mérité, parce que les adultes font toujours ce qu'il faut. Donc, si les adultes me traitent comme ça, c'est que je l'ai mérité, c'est que je suis nul. » Cet enfant-là va grandir avec une culpabilité qu'il ne mérite pas, qui est injuste. Et vous allez le libérer de cette culpabilité-là quand vous lui direz « Non, ce qui t'est arrivé, c'est une injustice, tu ne mérites pas ça, tu es quelqu'un de bien. Et celui qui t'a fait ça, c'est un espèce de... » Et là, vous pouvez rajouter tous les gros mots que vous voulez. Là, il osera se mettre en colère envers la personne qui lui a fait subir cette injustice et ça va le libérer de cette culpabilité-là. Le méchant n'était pas moi, c'était l'autre. Je suis quelqu'un de bien. Et dans un premier temps, il faut se mettre en colère. Il existe une saine colère qui, elle, nous permettra, dans un deuxième temps, de poser un pardon en profondeur. Si, parce qu'on est chrétien, on n'ose pas exprimer à Dieu notre colère, alors on posera un pardon superficiel, mais pas un pardon vrai. Et ça va devenir une sorte de blessure refoulée qui génère une sorte de culpabilité. Et en fait, il faut dans un premier temps se mettre en colère. Et si dans la Bible, il y a des psaumes violents, c'est justement parce que Dieu accepte de notre bouc émissaire, Dieu accepte qu'on déverse envers lui notre colère pour pas qu'on fasse du mal à quelqu'un. Il accepte d'être notre sac de boxe, vous savez, quand on frappe sur le sac de boxe pour évacuer sa colère. Donc Dieu, il accepte d'être notre sac de boxe pour qu'on lui exprime à lui notre colère. Je connais un prêtre que vous ne connaissez pas, qui à un moment donné, il subissait une situation très injuste et il était même tenté de se suicider. Et ce qui lui a sauvé la vie, c'est qu'il a pris les psaumes violents de la Bible, il a fermé les portes de l'église et il les a criés à Dieu. « Vas-y, écrase mes ennemis et tu prends leurs enfants et tu les écrases contre le roc !» Il y a des psaumes dans la Bible qui disent ça. « Accuse ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent, etc. » Il a évacué sa colère d'une façon saine envers Dieu et après il a pu pardonner ceux qui lui faisaient du mal. Donc voilà la deuxième étape. Première étape, donc ne pas confondre ce que je ressens et ce que je veux ressentir. Je ne suis pas coupable de ce que je ressens. Deuxième étape, j'ose me mettre en colère et évacuer cette colère d'une façon saine, notamment auprès de Dieu. exprimer ce que nous ressentons, même si ce n'est pas tout à fait juste. Dieu veut une prière sincère et non pas une prière hypocrite. Si nous sommes faibles, blessés, Dieu veut qu'on se présente devant lui, faibles et blessés comme nous sommes, et qu'on ne fasse pas nos malins devant lui. Troisième étape, ne pas chercher forcément à excuser la personne. Ça peut être déjà... C'est déjà pas mal quand on arrive à excuser la personne, mais le pardon chrétien va plus loin que ça. Le pardon des psys, oui, il peut consister à ça. Je cherche à excuser la personne. Peut-être que la personne qui m'a fait du mal, peut-être qu'il a eu des blessures dans son enfance qui font qu'il est comme ça. Peut-être qu'il a beaucoup souffert dans la vie, c'est pour ça qu'il est comme ça. Peut-être que c'est l'éducation qu'il a reçue. Peut-être que c'est sa culture. Et on va essayer d'excuser la personne. Bon, c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Mais, en fait, du coup, on va déplacer notre colère envers quelqu'un d'autre. On va se trouver à notre bouc émissaire. Par exemple, moi, en arrivant en France, j'ai été très mal poli. Je pense que je le suis encore parfois. Et les Français, pour m'excuser, ils se disaient à eux-mêmes, non, mais tu comprends, il est espagnol, c'est sa culture, dans son pays, c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, et en voulant m'excuser, moi, du coup, au lieu de me haïr, moi, ils haïssaient ma race. Vous voyez, c'est la base de beaucoup de racisme, beaucoup d'exclusion sociale ou autre. C'est, on va essayer d'excuser quelqu'un en se trouvant un autre bouc émissaire. Non, et donc, non, mais tu comprends, c'est l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Et du coup, au lieu de le haïr lui, on va haïr ses parents. Et on a besoin de haïr quelqu'un. Et du coup, on va déplacer notre colère envers quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas ça le pardon chrétien. C'est mieux que rien, c'est sûr. Mais... Et parfois, la personne est inexcusable, tout simplement. Et il ne faut pas se mentir. Et souvent, il y a aussi des drames qui arrivent. Et comme on a besoin d'haïr quelqu'un et qu'on ne trouve pas de coupable, alors on va haïr Dieu. Vous voyez, quand il y a un décès dramatique, quelqu'un qui meurt jeune, et personne ne l'a tué. Du coup, on dit, comme personne ne l'a tué, on ne peut pas haïr quelqu'un. On peut éventuellement haïr le médecin qui ne l'a pas soigné assez bien. On peut haïr s'il est mort sur un accident sur la route. On peut haïr celui qui n'a pas été assez prudent sur la route. Mais quand on n'a personne pour haïr, quand on n'a pas de bouc émissaire, du coup, on haïra Dieu. Mais Dieu, il était tout puissant. Il aurait pu faire quelque chose pour empêcher ça. Et Jésus, sur la croix, il accepte d'être le bouc émissaire de l'humanité. Il accepte d'être tenu pour coupable de tous les péchés de tous les hommes. Et il en paye le prix comme si c'était lui qui les avait fait, parce qu'il sait que souvent nous avons besoin d'un bouc émissaire, que nous avons besoin de défouler notre colère envers quelqu'un. Et cela est un pardon imparfait, n'est pas le pardon parfait. Le pardon chrétien ne consiste pas à excuser l'autre personne. Le pardon chrétien va plus loin. Peut-être que la personne est coupable et qu'elle ne mérite pas d'être pardonnée. Peut-être que je suis innocent de ce qui m'est arrivé, que c'est une injustice et qu'il ne faut pas chercher à justifier. Mais si je pardonne à la personne, ce n'est pas parce que la personne le mérite, c'est parce que Jésus le mérite. Parce que Jésus, sur la croix, a souffert des péchés de cette personne plus que moi. Et si Jésus, qui a souffert de ses péchés plus que moi, aime cette personne, il n'y a pas de raison pour que moi je ne l'aime pas. Du moins avec mon amour d'agapé. Sans doute pas avec l'amour de Philia ou de Rose, mais au moins avec l'amour d'agapé. Je suis capable de lui souhaiter du bien. Parce que Jésus, qui a souffert de ses péchés plus que moi, il l'aime. Et il l'aime complètement. C'est Jésus qui le mérite. Et surtout Jésus, qui a souffert des péchés de celui qui me fait du mal, il a aussi souffert de mes péchés. Et il m'a pardonné à moi une dette beaucoup plus grande que celle que je n'aurais jamais à pardonner. Si Jésus, qui m'a remis une dette immense que je n'aurais jamais pu payer, la dette de mes péchés envers lui, s'il a fait tout ça pour moi, comment je pourrais ne pas pardonner à mon tour les petites dettes que les autres ont envers moi? Et vous savez que la traduction la plus fidèle de notre Père, c'est pas pardonner nos offenses, c'est remettre nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Évidemment, en parlant de nos offenses, du péché. J'approche de la fin. Vous voyez, il se peut que la personne qui vous a fait du mal mérite l'enfer. Et justement, si Jésus vous demande de prier pour vos ennemis, c'est parce qu'il s'agit de prier pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Et se dire que Jésus a souffert sur la croix pour que cette personne-là n'aille pas en enfer. Jésus a payé très cher le prix des péchés de cette personne parce qu'il ne veut pas qu'elle soit damnée à tout jamais, même si elle le mérite. Et comment mépriser le sang de Jésus? Comment mépriser toute cette souffrance? Si Jésus a payé un prix si cher pour que cette personne-là n'aille pas en enfer alors qu'elle le mérite, comment moi je pourrais estimer que cette personne-là n'est pas digne de miséricorde? Ça serait un mépris envers tout le sang que Jésus a versé pour cette personne. Donc ce n'est pas la personne qui le mérite, c'est Jésus qui le mérite. Et parce que j'aime Jésus, je souhaite à cette personne qui m'a fait du mal de ne pas aller en enfer. Parfois, on ne peut pas aller plus loin que ça. Dieu ne vous demande pas forcément de souhaiter que la personne injustement soit acquittée de tout ce qu'elle a fait. Il se peut que la personne, de façon juste, mérite la prison. Et vous pouvez, en tant que chrétien, mener toutes les démarches nécessaires auprès de la justice. Et ce n'est pas forcément un manque d'amour ou de la vengeance. Il s'agit de vouloir sauver l'âme de cette personne. Et dans la mesure où la personne assume les conséquences de ses actes, elle pourra peut-être sauver son âme pour l'éternité. Donc, le pardon n'est pas incompatible avec la justice. Vous pouvez souhaiter que la personne assume ses actes, soit sur terre avec la justice des hommes, soit après sa mort avec la justice de Dieu au purgatoire, et qu'elle paye le prix de ses péchés pour les purifier au purgatoire. Vous avez le droit de souhaiter que justice soit faite. Mais en aimant toujours assez la personne pour que cette justice ne soit pas juste pour vous défouler votre désir de vengeance, mais pour elle, pour la sauver, pour sauver son âme pour l'éternité. Donc voilà, je vous laisse sur cette phrase de Jésus. Priez pour ceux qui vous font du mal, pour qu'ils soient sauvés. Amen.